Chers amis des cellules paroissiales d'évangélisation, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le cinquième mystère douloureux, la crucifixion. Nous allons nous attacher au récit de l'ultime supplice du Seigneur. Nous allons revivre dans notre méditation, dans notre prière, les dernières heures de Jésus avant sa mort. Et ce récit de la Passion, et spécialement de la crucifixion, est présent dans les quatre évangiles. Alors, vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, lire les quatre récits à la suite, ou de temps en temps, en lire un, en remarquant qu'il y a quelques différences de l'un à l'autre. Et chacun des auteurs, finalement, nous rapporte ses faits avec des détails qui sont assez nombreux, des détails qui, au fil des siècles, ont été étudiés, analysés, passés au peigne fin, on peut dire. Ça nous renseigne beaucoup sur, d'abord, la souffrance de Jésus, le contexte dans lequel s'est déroulée la crucifixion. Nous savons que c'était un supplice terrible qui infligeait les Romains, spécialement aux esclaves. Alors, dans le cadre de cette méditation, de cette présentation, il n'est pas possible, bien entendu, de commenter tous les détails. Il n'est pas possible d'étudier complètement la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix. Nous pourrions le faire sous plusieurs aspects. Nous pourrions le faire en nous référant à des études médicales, à des études anatomiques qui ont été faites et qui nous montreraient la profondeur de la souffrance d'un crucifié, et ici, bien sûr, de la souffrance de Jésus. Alors, tous ces détails que nous rapportent les évangélistes n'ont pas été retenus par hasard, bien entendu, car chacun d'eux possède une valeur éminemment symbolique, et chaque détail nous ouvre à l'accomplissement des Écritures dans un contexte humain, de mise à mort, dont l'aspect le plus profond réside dans l'immolation du Seigneur à travers son offrande parfaite de lui-même à son Père pour notre rachat. Il est très important de bien comprendre que les évangiles ont toujours voulu mettre en conformité à la fois les paroles et les gestes de Jésus avec ceux des patriarches d'autrefois, avec ceux des prophètes d'autrefois, à travers différents écrits de sagesse, à travers les psaumes. Donc tout converge d'une certaine façon dans le Christ, et tout est accompli dans le Christ. C'est pour cette raison que, très souvent, les évangélistes nous disent « afin que l'Écriture puisse être accomplie ». La première épître de Pierre au chapitre 2 nous rappelle que lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, a été outragé. Il ne rendait point l'outrage. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le gibet, afin que, morts au péché, nous vivions à la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Oui, les saintes plaies de Jésus sur la croix sont les dernières blessures qui lui ont été infligées. Ces plaies sont comme des sources d'eau vive, finalement, d'où jaillissent toute la grâce, toute la bonté, toute la miséricorde du Seigneur pour nous, pour toute l'humanité. Par ces blessures, nous sommes guéris. C'est très étonnant parce que une blessure, c'est une blessure, c'est pas une guérison. Et pourtant, à travers les blessures de Jésus, nous est manifesté tout le baume de la tendresse de Dieu pour nous. Donc nous devons avoir une belle dévotion, un grand amour envers Jésus crucifié, envers Jésus qui offre sa vie, envers Jésus qui nous montre ses plaies, à travers lesquelles toute notre existence est à la fois purifiée et embellie. En continuant notre méditation sur la crucifixion de Jésus, je vous propose de laisser descendre en notre cœur les sept paroles qu'il prononce du haut de la croix, les sept paroles qui, au fil des siècles, ont été mises en musique par de nombreux compositeurs qui en ont saisi à la fois la portée spirituelle et dramatique. Première parole de Jésus, au moment où il vient d'être crucifié au milieu des deux larrons. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est une demande suppliante, c'est une intercession, c'est l'intercession du grand prêtre de la Nouvelle Alliance, situé entre le Père, vers lequel il est tourné, et l'humanité pécheresse dans laquelle nous sommes. Ce « pardonne-leur » nous concerne tous et chacun. Deuxième parole de Jésus sur la croix. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette parole, c'est essentiellement une proclamation rédemptrice adressée à celui que la tradition a appelé Saint Dismas, le bon larron, l'un des deux malfaiteurs. C'est une promesse de bonheur, c'est une promesse de lumière qui lui est offerte. On a dit que Dismas était le premier saint canonisé de l'histoire de l'Église, ce qui n'est pas faux. Mais Dismas, c'est l'image aussi de chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir commis les plus grands méfaits, les plus grands péchés. La rencontre avec le Seigneur, l'ouverture de notre cœur, nous ouvre à son pardon, à sa miséricorde. Troisième parole, « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » C'est une parole d'offrande qui peut nous étonner. Jésus n'a plus grand-chose à offrir que sa vie, et juste avant d'offrir sa vie, alors qu'il nous a déjà tout donné, eh bien, il nous donne sa mère. Aucun être humain normal, disons, ne peut faire ce que fait Jésus. On ne peut pas donner notre mère. Nous avons reçu nos parents de la part de Dieu. L'un des commandements nous invite même à les honorer. Tu honoreras ton père et ta mère. Bien, Jésus ne déshonore pas Marie, bien entendu, au contraire, il l'ouvre à une mission tout à fait spéciale. C'est une parole d'offrande qui place Marie et Jean dans une nouvelle forme de communion que Jésus veut établir entre eux. Voyez comment le Sauveur a les bras grands ouverts. Symboliquement, ça nous rappelle qu'il ne retient absolument rien pour lui. Il nous établit dans ce mouvement d'offrande avec Marie et Saint Jean. Quatrième parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole, nous disent les Écritures, a été prononcée comme un cri, avec une voix forte, dit le texte hébreu. Littéralement, nous pourrions dire qu'il s'agit d'un hurlement de douleur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole, vous voyez, est aussi un hurlement de prière, en référence au psaume 50, l'un des psaumes de la pénitence. Cinquième parole, j'ai soif. Bien sûr, notre Seigneur est éprouvé par la soif en son corps meurtri et torturé. Il vient de porter la croix sur plusieurs centaines de mètres. Il a passé une nuit horrible, une matinée d'épouvante, de torture. Son corps regimbe contre la douleur. Il est certainement brûlant de fièvre à ce stade. Mais cette cinquième parole exprime essentiellement la soif ardente que le Christ éprouve pour le salut de toutes les âmes. Cette parole nous indique qu'il est le Sauveur, et que le salut n'a pas de limite. Ici encore, le Christ se réfère à un psaume, le psaume 69. « Ils m'ont donné à boire du vinaigre lorsque j'avais soif. » Sixième parole. « Tout est achevé, c'est-à-dire tout est accompli, tout est fait. Jésus a été jusqu'au bout de la mission qu'il a reçue du Père. Et cette parole met en lumière sa disponibilité, sa fidélité totale. À aucun moment il n'a failli à la mission qu'il a reçue de son Père. Septième et dernière parole de Jésus sur la croix, poussant un grand cri, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Le moment est arrivé de rendre le dernier soupir. C'est la sainte expiration. C'est aussi l'effusion de l'Esprit divin sur la terre. L'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Et cette parole, d'une certaine façon, nous oriente déjà vers le souffle de la Pentecôte. Chers amis, de temps à autre, prenons le temps d'intérioriser l'une de ces paroles lorsque nous sommes devant la croix.